Bible dans Ecclésiaste au chapitre 9. Ecclésiaste au chapitre 9. Je suis content que vous soyez là. Je suis content d'être ici avec vous. Et le plus important, je suis content que le Seigneur soit au milieu de nous. Lui qui est la personne qu'on célèbre, c'est lui le plus important. On le voit pas de nos yeux, mais on l'adore de notre cœur et on le voit avec les yeux de la foi. Je le vois dans ses enfants, je l'entends dans les chants, la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sa parole et savez-vous, Jésus est dans l'Ancien Testament caché et il est révélé dans le Nouveau. C'est lui dont parlent toutes les Écritures. Et ici dans Ecclésiaste, on a, comme dans les livres qu'on appelle les livres de la sagesse, là, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, on a Christ notre sagesse. Et on va considérer ce matin Christ notre sagesse dans Ecclésiaste. Et on a lu le chapitre au complet tantôt. Et là, on va lire les versets 7 à 10. Et déjà en les lisant, vous allez voir un peu la teneur de ce qu'on lit. Ça va demander quelques petites explications. « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. » Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. On va commencer en priant. Seigneur, c'est toi qui enseignes les Écritures par ton esprit. C'est toi qui convainc de pécher ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc, on vient à toi totalement dépendant, mais aussi reconnaissant que tu es vivant. Que tu sauves, que tu délivres, que tu réconfortes, que tu es le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute espérance. On s'attend à toi à cause de ce que tu es, Seigneur. Tu révèles être ce Dieu merveilleux. Et donc, on s'attend à ce que, Seigneur, tu puisses révéler encore, avec une nouvelle fraîcheur, toute ta beauté, ta bonté, Seigneur. On te le demande au nom de Jésus. Amen. La bonté de la sagesse de Dieu. Probablement qu'en lisant les versets qu'on a lus, peut-être que certains d'entre vous, ou des fois, je le disais tantôt, à votre première lecture de l'Ecclésiaste, vous étiez peut-être un peu troublés, parce que moi, je me rappelle, la première fois que j'ai lu Ecclésiaste, je me disais, ben coudon, on dirait que c'est en contradiction avec d'autres passages des Écritures. Ou est-ce que, dans le fond, ça dit, ben vas-y, fais n'importe quoi, tu sais, ou je le prenais de même, là. Vas-y, vis ta vie comme bon te semble. Et puis là, je dis, ben voyons, il me semble que c'est pas vraiment la teneur du reste des enseignements de la parole de Dieu en ce qui concerne la sainteté, la sanctification. Mais évidemment, comme tout dans la parole de Dieu, la parole s'explique par la parole. Et lorsqu'on prend le temps de s'arrêter, et d'ailleurs, c'est un des livres qui a béni beaucoup mon cœur parce que je l'ai étudié, j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'ouvre les vérités merveilleuses de ce livre. Et j'ai découvert, ben, premièrement, c'est un livre qui a un but évangélistique. Il nous parle des choses sous le soleil, puis ça nous parle des choses comme s'il n'y avait pas un Dieu au-delà, puis qu'il y avait juste ici-bas. Okay? Donc, c'est vraiment le but d'amener les gens à réfléchir. S'il y a juste la vie ici-bas, la vie n'a pas de sens, c'est de la vanité, puis tout simplement de vivre juste pour ce moment, parce que après ça, on meurt, puis c'est fini. D'ailleurs, on a lu ça dans le chapitre tantôt, là, dans d'autres versets. Mais, évidemment, c'est pas le seul message du livre. La puissance de tout le message du livre, c'est à la fin, parce que dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il contraste la vanité de la pensée, de la vie dans ce monde, de la philosophie de ce monde, hein, sous le soleil, une expression qui revient souvent, puis aussi vanité, c'est une expression qui revient souvent, versus la plénitude de la vie de Dieu. C'est ça le message de l'Ecclésiaste. Regardez ce que ça dit au verset 15. Chapitre 12, pardon, verset 15. « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. » Ça, on pourrait dire « croire, obéir ». C'est vraiment La foi est le fruit de la foi. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ou on peut aussi amener une autre alternative à cette traduction. C'est là ce qui fait le tout de l'homme. C'est pas juste, ah, c'est là ce que tu dois faire, puis là, si tu fais ça. Non, c'est ça qui va te rendre complet. Donc, c'est le contraste entre toutes tes vanités vides et voici ce qui te rend complet, ce qui te remplit. C'est vraiment ça ici, le message de l'Ecclésiaste. Où est-ce que le monde regardait le roi Salomon comme étant la sommité, comme étant l'accomplissement de tout ce qu'on peut désirer sur cette terre. Puis il dit, regardez, moi j'ai tout essayé, j'ai tout vécu. C'est de la vanité, c'est rien, c'est du vent, c'est de la poursuite du vent. Voici c'est quoi qui remplit, c'est quoi qui satisfait. C'est Dieu. C'est croire à Dieu, puis avoir une foi vivante qui produit du fruit. Pas juste des mots, mais le fruit de la foi. Et donc, ça, en gros, on peut dire que c'est vraiment le message de l'Ecclésiaste. Mais lorsque, en lisant dernièrement le livre de l'Ecclésiaste, avec la perspective que le Seigneur beaucoup nous met de l'avant à l'Église, c'est-à-dire voir les choses à la lumière de la Nouvelle Alliance. Vous savez, on est sous la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ. Alors, on est après la croix, Jésus-Christ est venu. Nous sommes sous la Nouvelle Alliance, c'est ce qu'on célèbre quand on a le repas du Seigneur. Hein? On élève la coupe de la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance est passée. Bien, lorsqu'on considère le livre de l'Ecclésiaste à la lumière de cette Nouvelle Alliance, ça change les choses. Ou pour le dire autrement, lorsqu'on considère le livre de l'Ecclésiaste en contrastant les deux arbres, l'arbre de la connaissance de la bien, du bien et du mal versus l'arbre de vie, ben moi ce qui m'a frappé, c'est le Saint-Esprit évidemment qui m'a montré ces choses-là, qui m'a fait me rendre compte que c'est un contraste, parce que c'est vraiment un livre de contraste, le livre d'Ecclésiaste, entre la vision, la compréhension de la vie à la lumière de l'arbre de la connaissance, parce que c'est vraiment ça, là, tu sais, tu fais ci, tu fais ça, tu connais ci. C'était Monsieur Connaissance, là, Salomon, lui, il avait de la connaissance au bout. Mais il dit, toute cette connaissance, toute cette sagesse, c'est rien. Sans la sagesse de Dieu, sans connaître Dieu, sans l'arbre de vie. Ça aussi, c'est un message très puissant de ce livre, qu'on peut comprendre à la lumière de la Nouvelle Alliance. Donc, c'est ce qui fait que tout est vanité. Si j'essaie de vivre selon l'arbre de la connaissance du bien puis du mal en essayant de vivre de mon mieux ici-bas, je vais arriver à la vanité parce qu'il manque l'essentiel, la vie. Et Christ est notre vie. Dieu est celui qui donne la vie. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Regardez le verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. Jouis de la vie. Savez-vous que l'une des vérités importantes de l'Ecclésiaste, c'est que la jouissance de la vie, apprécier la vie, être content dans cette vie. L'Ecclésiaste nous répète à plusieurs reprises que c'est un don de Dieu. Savez-vous que, juste sauver pour sauver, là, pour apprécier la vie ici bas sur terre, il faut que ce soit Dieu qui nous en donne l'appréciation. Si vous ne croyez pas, on va lire deux versets. 2:24. Il n'y a ni bonheur pour l'homme, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Regardez aussi chapitre 3, verset 13. Chapitre 3, verset 13. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Bon, là, si on part de là, puis on met ça à la lumière du plan rédempteur de Dieu. On voit que Dieu, dans son grand plan rédempteur, désire qu'on jouisse de la vie. Mais pensez-vous qu'il veut juste qu'on jouisse de la vie ici-bas sur terre, des saisons, puis de la santé, puis tout ça? Ben non, évidemment, parce qu'il est lui-même la vie. Et c'est là tout ce qu'on va découvrir ensemble avec l'Ecclésiaste, parce que la vraie vie, c'est pas celle-là ici, pas sur terre. La vraie vie, donc, qui nous fait vraiment, qui nous donne vraiment le sentiment de satisfaction, qui nous donne une vraie jouissance, une appréciation, c'est pas celle qu'on a ici bas sur terre, sous le soleil, mais c'est celle que Dieu donne. Et donc, pour pouvoir jouir de notre vie, il doit y avoir l'intervention de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de jouissance de vie sans la grâce de Dieu. Maintenant, ça, c'est vrai à deux niveaux. OK? D'abord, les théologiens ont ce qu'on appelle la grâce commune. OK? Puis ça, je vous lis Acte 14, versets 16 et 17. « Car Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, Dieu a rendu témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien et en dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles et en vous donnant de la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Et c'est la grâce de Dieu. Ça parle des non-sauvés. Comment Dieu est bon même envers les non-sauvés. Bon, je parlais de ça avec ma soeur. Malgré des fois, c'est triste parce que des fois, les gens se satisfont de ça puis ils ne se tournent pas vers Dieu. C'est une des tragédies de notre société actuelle. On est dans l'abondance, mais les gens ne se soucient pas de Dieu. Donc, ils prennent la bonne grâce de Dieu puis ils s'assoient là-dessus puis ils ne cherchent pas Dieu. OK? Mais ça, c'est le premier niveau de grâce de Dieu, la grâce commune, la grâce que Dieu donne à tout le monde avec les saisons, puis la santé, puis tout ça. Puis ensuite, évidemment, il y a la grâce salvatrice, qui est la restauration complète et parfaite de la vie. Parce que avec la grâce commune, les gens peuvent avoir une jouissance de la vie, mais c'est pas la vraie vie. C'est pas, il n'y a pas de plénitude là-dedans, c'est de la vanité. OK? La grâce salvatrice donne la vraie vie, celle qui satisfait, celle qui vient de la croix, de l'arbre de vie. Hein? Le premier a été fermé, l'accès a été fermé en Éden, mais Jésus est mort sur la croix, il a donné accès à la vie. C'est le deuxième arbre de vie. Jésus a restauré ce qui a été perdu. Et je dirais que c'est là le grand message rédempteur de l'Ecclésiaste. Les lecteurs d'Ecclésiaste sont appelés à considérer la vanité de cette vie est de considérer la vraie vie. C'est une invitation à l'arbre de vie. Et là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais vous lire un verset, puis je vais vous donner une application. Dans le prophète Agée, et dans le contexte par rapport à la construction du temple, tout ça, mais il y a vraiment une application par rapport à la vie ici-bas sur terre. Et ceux qui connaissent Agée, c'est vraiment connu là, dans le message d'Agée, où est-ce qu'il dit « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. » Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. C'est un peu en contraste. Tantôt, il disait « Dieu donne les pluies fertiles ». Mais là, dans Agée, il dit que Dieu, là, il est intervenu. Il a fait en sorte que, même s'il semait puis tout ça, il n'était pas rassasié. « Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. » Dans le fond, c'est quoi que ça nous dit ici, dans Agée? Il est préférable pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur d'être privé pour un temps de la plénitude de la grâce commune. Tu sais, des bontés de la vie, d'être en santé, puis tout ça. C'est préférable d'en être privé pour un temps afin de sentir notre misère et qu'on puisse arriver à la grâce salvatrice. C'est bien mieux. Parce que si on a la grâce commune, ça ne va pas nous sauver. La grâce commune, ce n'est pas la réconciliation avec Dieu. Ce n'est que la grâce salvatrice qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous donne la vraie vie. Et il vaut mieux être privé de santé, de l'abondance qu'on peut avoir pour finalement voir dans notre misère qu'il nous manque l'essentiel, il nous manque Dieu. Pas une religion. J'ai quelqu'un qui m'a demandé ça. J'aime ça, les questions de main. Je veux être sûr d'avoir la bonne religion. Ah, j'ai dit, je suis content que tu le demandes, parce que je vais te dire, c'est une personne dont tu as besoin, puis son nom, c'est Jésus-Christ. C'est pas une religion. Mais c'est le fun, parce que c'est quelqu'un de sincère qui vraiment, lui, il est de confession musulmane, puis pour lui, mais c'est ça, tu sais, j'ai-tu la bonne religion, puis je veux vraiment essayer de pratiquer le mieux possible. C'est un fardeau, puis c'est décourageant, puis c'est un cul-de-sac, dans le fond. C'est le fun de pouvoir prêcher Christ, de dire... C'est pas une religion, c'est pas un fardeau sur tes épaules, c'est une personne en qui t'as confié. Tout est accompli. Il m'a regardé avec les yeux grands de même. Vous priez pour lui, je le rencontre encore la semaine prochaine. Donc c'est ça. Autrement dit, donc je disais, c'est préférable d'être privé de la grâce commune pour un temps, afin de vraiment sentir une misère de jouir de la grâce salvatrice. Mais autrement dit, c'est bon de constater l'amertume du fruit de l'arbre de la connaissance pour nous amener à goûter la douceur du fruit de l'arbre de vie. That's it. Goûtez, sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon. On parle de la bonté de Dieu dans le mois de décembre. Et c'est ça. Dieu, dans sa bonté, veut se faire connaître à nous. Veut qu'on jouisse de la vraie vie. Et écoutez, si vous n'êtes pas sauvés ici, la Bible dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. On ne sait pas combien de temps on va être ici sur Terre. Il faut choisir la vie avant que la mort ne nous surprenne. Et déjà, on voit la mort nous entoure. Bien, c'est un appel à la vie. Ça ne marche pas ici bas sur Terre. C'est Dieu qui nous montre. Non, ce n'est pas toi de marcher parce qu'il n'y a pas de vie sans moi. Et donc, gloire à Dieu que si le monde va si mal, ça nous amène à voir que il y a un Dieu qui est au-delà et qui nous appelle à lui, qui lui, il n'y a rien qui va mal avec lui. En fait, tout est bon, tout est vrai, tout est grâce avec lui. Et donc, on va regarder ensemble, ça c'était quand même assez longue introduction, on va regarder deux sources de sagesse qui vont nous amener soit vers la bonté de la sagesse de Dieu ou qui vont aller contre la bonté de la sagesse de Dieu. Deux sources. La première, c'est la mauvaise. La source malfaisante de la sagesse du monde. La source malfaisante de la sagesse du monde. Le message d'Ecclésiaste, vraiment, c'est un contraste entre la sagesse du monde, hein, comme on a vu avec Moïse. Moïse a été instruit dans la sagesse des Égyptiens. Il y avait toutes sortes de sagesse, il y avait de la connaissance, des instructions. Il n'était pas fou, là, je veux dire. C'était pas des gens là, qui faisaient n'importe quoi. C'était une société avancée à l'époque. Ça dit que c'est ça. Il y a une sagesse dans ce monde, mais Ecclésiaste contraste cette sagesse qui est dans le monde avec la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, elle est incarnée, elle est pleinement révélée en Jésus-Christ. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1:30. Et donc, Jésus lui-même est la sagesse de Dieu incarnée, qui est venu pour nous racheter de la malédiction de la mort. Et là-dessus, écoutez bien, il y a quelque chose d'évident. Le monde a rejeté la sagesse de Dieu. Okay? Les Corinthiens étaient des Grecs, étaient très intéressés à la sagesse, et Paul leur parle de sagesse selon ce monde, dans 1 Corinthiens 2, ça dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. » Voyez-vous, ce n'est pas la sagesse de ce monde. « Qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Et donc, c'est bien évident que la sagesse du monde, elle est destructrice, elle est malfaisante. La sagesse du monde n'a pas vu la sagesse de Dieu qui a envoyé son Fils pour nous sauver. Et ça, c'est évident dans le monde, mais savez-vous que cette même sagesse du monde opère cette destruction parmi les saints? Oui, parmi l'Église du Dieu vivant, la sagesse du monde fait des ravages. Comment et pourquoi? Écoutez ce que ça dit. Jésus ici parlait à des gens qui n'étaient pas sauvés, mais ça s'applique à nous autres. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est possible en tant qu'enfant de Dieu de prendre la sainte parole de Dieu, la parole vivante de Dieu comme une fin en tant que telle, puis manquer celui qui est venu se révéler dans cette parole. De prendre la Bible, puis de chercher en elle toute la clé pour la vie, puis je veux dire en tant qu'enfant de Dieu que la vie éternelle, là, okay? Qui est sauvée, mais de prendre la Bible comme un moyen de vivre ici-bas sur terre, d'avoir la vie abondante, mais de manquer celui qui est la vie, celui qui et la révélation des Écritures. Et tout ça, c'est parce que c'est possible de se servir de la Bible comme une source de mort, parce qu'on dépend non pas de la vie de Christ, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De se servir de la Bible comme quelque chose qui nous dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, comment s'éloigner du mal, comment s'approcher du bien. Puis c'est comme si c'était une fin en tant que telle, alors que la Bible dit « choisis la vie ». Si je choisis Jésus, lui me dirige dans toute la vérité. Ce n'est pas un qui empêche l'autre. Si je choisis la vie, faites-vous-en pas, là, je ne vais pas faire le mal, je ne vais pas rejeter le bien. Au contraire, je vais faire le bien comme je ne l'ai jamais fait dans ma vie. Puis Dieu, dans mon cœur même, il va briser la puissance du mal, cette attirance que je peux avoir. Mais il faut que je dépende de lui. Il y en a un qui c'est l'indépendance, l'arbre de la connaissance du bien puis du mal, puis l'autre c'est la dépendance. C'est pour ça que c'est si bien révélé dans Jean 5 que je vous ai lu. Jésus parlait aux pharisiens. Puis les pharisiens étaient des gens très religieux, très sincères, puis ils n'étaient pas sauvés, là. OK? Mais ils pensaient avoir dans les Écritures la vie éternelle. Ils avaient raison. OK? De chercher, parce que c'est la parole qui révèle comment avoir la vie éternelle. Mais ça dit, c'est elle qui rend témoignage de moi, d'une personne. Puis elle n'est pas à Jésus pour avoir la vie. Écoutez, Hébreux chapitre 12, verset 15. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Ici, on voit que l'amertume, qui certainement dans nos églises est un problème, hein, c'est relationnel. L'amertume, c'est pas bon pour les relations, c'est pas bon pour notre cœur. Mais ça, on pourrait aussi dire, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu avec la convoitise, avec la puissance de la peur, de la colère. C'est différentes déclinaisons par lesquelles les enfants de Dieu se privent du don de la bonté de Dieu. Parce que, pas parce qu'ils rejettent Dieu, pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas le bon moyen pour aller à Dieu. Ils croient qu'il faut faire quelque chose pour essayer de gagner l'acceptation de Dieu. Et c'est ce qui justement vient entre eux et Dieu. C'est le « moi ». Seigneur, je t'aime et je veux faire de quoi pour avoir ton acceptation, alors que la Bible nous dit qu'on est déjà accepté. Et le problème fondamental ici, dont je parle, c'est la chair. C'est l'indépendance. C'est de ne pas croire que Dieu est la vraie vie et que pour jouir de cette vie, il faut dépendre de lui. Autrement dit, je vais me priver de la grâce de Dieu si je veux vivre de façon indépendante. Et je vais vous donner une illustration dans un instant, mais gardez ce mot à l'esprit. C'est évident, le monde hein, valorise et glorifie être indépendant. « Hey, moi, personne ne me dit quoi faire. » Puis, tu sais, il y a cet orgueil d'être quelqu'un qui a réussi par lui-même, puis tout ça. Tandis que chez les... Puis on peut dire, c'est pas mal évident, c'est mis de l'avant. Tandis que chez les saints, chez les enfants de Dieu, c'est beaucoup plus sournois. Par exemple, l'aveuglement spirituel dans le monde chrétien par rapport à ce qu'on appelle les patterns de notre chair, à la façon dont on a été habitué de répondre aux problèmes dans la vie. Mes amis, ça, là, écoutez bien, c'est possible, en tant qu'enfant de Dieu, avec la bonne parole de Dieu, d'apprendre comment répondre aux problèmes de la vie de façon indépendante de Dieu. Et ça, mes amis, là, ça a beau bien paraître, ça a beau avoir plein de bonnes intentions, l'issue, c'est la mort. Pourquoi? Parce que la source, ce n'est pas Dieu, c'est moi. C'est ça le problème de l'indépendance. Et donc, je me prive de la grâce de Dieu. Et souvent, pourquoi? Puis comment ça va se décliner, justement? Bien, j'ai appris que quand j'ai des problèmes, je m'isole puis je ne parle pas à personne. Bien, ça ne règle pas mes problèmes, mais j'ai appris ça demain. Ça, c'est une façon que la chair va réagir. D'autres, ça va être au contraire. Je vais tellement frapper fort que je vais tout détruire ce qui aurait pu être une espèce de problème. Puis finalement, là, j'ai détruit non seulement J'ai pas détruit le problème, mais j'ai détruit les personnes au passage, donc dommages collatéraux. Donc, voyez-vous, l'idée, c'est de normaliser l'indépendance face à Dieu et d'appeler ça la vie chrétienne. Et là, j'ai donné des exemples assez évidents, mais la puissance de la tromperie est dans la subtilité. La puissance de la tromperie, c'est dans la subtilité. C'est-à-dire, je veux aider quelqu'un, je l'aime. Mon enfant, par exemple, mon époux, mon épouse. Puis je veux l'aider, je veux que Dieu travaille dans sa vie. OK? Est-ce que c'est mauvais? Absolument pas, c'est très bon. Mais de qui je dépends pour ça? Souvent, ce qu'on voit, là, c'est tellement malheureux, on le voit dans les familles, on le voit dans les couples, on le voit dans les églises, dans les relations. Des gens qui s'aiment, qui veulent s'aider, mais qui se nuisent parce que c'est moi, avec ma sagesse, avec comment moi je pense, puis avec ma sagesse. Il y a du mélange avec la sagesse de Dieu, là. Mais c'est moi qui veux aider la personne. Et donc, le problème, c'est la source. C'est de qui je dépends. J'ai tout fait ce qu'il fallait, tout ça, mais j'ai dépendu de moi, puis ce que ça donne, ça allait éloigner la personne. Pourquoi? Parce que c'est pas Christ en moi, c'est moi qui s'est mis de l'avant pour aider, et j'ai pas laissé Dieu, je me suis appuyé sur ma propre sagesse, et non pas sur Christ, ma sagesse. Et ça, mes amis, c'est grave, c'est se prendre pour Dieu, le Saint-Esprit, c'est d'inculquer la crainte des hommes, et non pas la marche par l'Esprit, c'est se confier en l'homme, et non pas à Dieu. Et la preuve de ça, c'est que cette approche, cette façon de penser ne produit pas ce qu'on voit dans Ésaïe 53, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Non, ça nous donne des gens anxieux, des gens tout de travers. Pourquoi? Parce que tout le fardeau est sur mes épaules, c'est moi, puis dans ce temps-là, il n'y a pas de paix de Dieu. La source est mauvaise. Je me repose sur, écoutez bien, je me repose sur une source sur laquelle la sentence de mort, de condamnation est déclarée. La chair, là, Jésus a dit qu'elle ne sert à rien, mais ça nous dit que la chair, elle rend impuissant d'essayer d'accomplir la volonté de Dieu. Je vous lis Romains 8, au verset 3. Ça nous dit, « Car chose impossible à l'heure, parce que la chair la rendait sans force. » Tu peux avoir plein de bonnes intentions, mais à cause de ta chair, tu n'as pas de force. Il a fallu que Dieu condamne le péché dans sa chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à nous, à celle du péché. Et cela afin que la justice de l'homme soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Pour marcher selon l'esprit, il faut dépendre de l'esprit. Et c'est là toute la trappe. On peut connaître la parole, on peut la chérir dans nos cœurs, on reconnaît que c'est la parole de Dieu, mais on dépend de notre sagesse pour la mettre en pratique. On fait la bonne affaire, mais on ne la fait pas de la bonne manière. Comprenez-vous? Ça peut être subtil. Mais là, je fais la bonne affaire. Oui, mais ta dépendance est sur toi, et pas sur Dieu. C'est ça que ça veut dire. La source malfaisante de la sagesse du monde dans le monde chrétien. Mais heureusement, la deuxième source, elle, c'est celle de la vie abondante. La source bienfaisante de la sagesse de Dieu. Et ce que je veux souligner ici, là, c'est que la source bienfaisante de la sagesse de Dieu, ben, c'est un don de Dieu. Parce que la Bible nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et on l'a vu, hein, c'est un don de Dieu. Si on peut jouir de la vie, même un non-sauvé, s'il veut apprécier la vie, c'est un don de Dieu, mais même pour nous, les enfants de Dieu, si on veut vraiment jouir de la vie abondante en Jésus-Christ, c'est Dieu qui la donne, c'est la grâce, c'est la vie par la grâce de Dieu. C'est pas par nos propres forces. Amen. Et maintenant, si j'explique plus en détail, pour un perdu qui ne connaît pas le Seigneur, ben, il peut pas apprécier même cette vie ici-bas, sur terre, sous le soleil, comme ça le dit ici, ta vie de vanité. C'est quand même assez Ouais, tu sais, tu veux jouir de ta vie de vanité. Tu sais, ta vie qui mène à rien, là, si au moins tu veux un peu l'apprécier, avouez que c'est quand même... C'est ça l'idée du message. C'est une vie de vanité, mais au moins tu peux apprécier, mais tu manques l'essentiel parce que c'est de la vanité. Comprenez que c'est un message évangélistique, c'est un message qui nous dit qu'il n'y a pas de vraie vie sans Dieu. Mais finalement, ça dit, bon, on ne peut pas apprécier même cette vie de vanité si ce n'est pas Dieu qui nous le permet. Puis, en passant dans le verset 9 qu'on a lu, « Jouis de la vie avec la femme de ta jeunesse » et tout ça, là, c'est pas ici une autorisation à pécher puis à la débandade, mais c'est un appel à reconnaître le Dieu de la vie afin de nous amener à le reconnaître comme sa vie. Le verset 9, il faut le comprendre comme t'apprécierais même pas ta vie là, de vanité si c'était pas de Dieu. À combien de fortes raisons tu devrais le reconnaître comme le vrai Dieu qui peut vraiment te donner la vraie vie? Ok? C'est pas, oh, fais ce que tu veux, puis vas-y, comme ça dit, mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est pas ça l'idée, là. C'est plutôt vraiment, c'est, regarde, si tu peux jouir de quelque chose ici-bas sur terre, c'est à cause de Dieu. Mais tu devrais le craindre parce que c'est lui qui donne la vraie vie. Là. Puis si tu veux vraiment une vie qui n'est pas une vie de vanité, c'est Dieu qui la donne. Et c'est vrai pour ceux qui écoutent ici, qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur vie, comme leur sauveur. Vous êtes appelés à voir qu'au-delà de cette vie ici-bas sur terre, il y a la vie éternelle et elle n'est qu'en Jésus-Christ, le sauveur. Amen. Et maintenant, pour les enfants de Dieu, ça veut dire quoi la source bienfaisante de la sagesse de Dieu? Ben, un enfant de Dieu non plus ne peut pas jouir de la vie abondante que Jésus a promis. Hein? Jésus a dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Un enfant de Dieu ne peut pas jouir de cette vie s'il n'accepte pas comme étant un pur et simple don de la grâce de Dieu. Tu sais, la vraie vie là, à laquelle on aspire là, en tant qu'enfant de Dieu, on n'aime pas le péché. En tant qu'enfant de Dieu, on aspire après Dieu. Là. Ben, c'est pas plus compliqué que juste dire c'est pas moi qui en ai la source, c'est Dieu qui la donne. Ça paraît niaiseux, là, mais comment qu'on se donne du trouble, qu'on essaye nous-mêmes de produire, de faire ce que Dieu nous a déjà donné? Pensez-y, là. Là, on est dimanche, on est assis tout le monde à l'église, on est tous d'accord. Là. Mais pensez-y comment c'est insensé pareil. Comment des fois on veut essayer d'apprécier la vie puis d'avoir la plénitude de ce que Dieu nous a déjà donné puis on essaie de l'avoir nous-mêmes en s'appuyant sur notre propre sagesse. Et, dans le fond, c'est que soit que ma chair veut essayer de faire des choses pour Dieu, puis là, ben, ça mène à tout ce qu'on connaît, ou j'accepte ma mort et la vanité de la chair pour que je puisse laisser Dieu vivre en moi. Illustration d'actualité. On parlait de ça tantôt. Avec la musique, on prie. Hein, on prie pour que la musique puisse vraiment avoir un ministère spécial dans nos cœurs, parce que c'est important. C'est une partie importante de notre journée aujourd'hui. Comment on chante des vérités de Dieu, puis tout ça. Puis, pendant qu'on priait, il y a quelque chose auquel j'ai pensé. Parce qu'avant qu'on prie, j'ai dit, prions pour que Dieu encourage les cœurs. C'est un temps d'année où est-ce que souvent... Excusez l'anglicisme, on est down. Là, on est un peu à terre, on est fatigué, il n'y a pas beaucoup de lumière. Des fois, c'est ça, c'est brumeux, il n'y a pas les belles couleurs dans les arbres, et on n'a pas encore commencé trop les sports d'hiver. Des fois, c'est un peu dur comme temps de l'année. Hein. Mais voici la pensée qui m'est venue quand on priait. Il y a une vérité spirituelle là-dedans. Il n'y a pas de vie sans passer par la mort. On dit, au temps de l'année, là, okay, tout meurt. C'est pas compliqué, il n'y a pas grand carotte d'un champ en ce moment. Vous allez voir, là, mais ça ne vit pas fort. Okay? Mais la mort est d'un passage, ça va donner hein, place à la vie plus tard. Hein? Après ça, le printemps va venir. Puis ok. Ben, il y a des saisons comme ça dans notre vie. Parce que oui, c'est plus dur et tout ça, mais savez-vous quoi? C'est pas une fatalité. Puis Dieu le permet parce qu'il veut exprimer sa vie. Il veut que cette saison où est-ce qu'on passe par la mort à ce que nous on aurait voulu faire, puis à nos ambitions, puis peu importe, remplissez l'espace à remplir, il permet cette mort-là pour que lui puisse manifester sa vie. Parce qu'au printemps, encore là, c'est pas nous autres que, tu sais, on peut même planter là, des carottes, des patates, puis des haricots, là.
Mais c'est pas nous qui les fait pousser, c'est Dieu. Mais de la même façon, Dieu nous fait passer par ça pour que sa vie puisse s'exprimer.
Et ça, mes amis, il y a quelque chose de bon là-dedans. Il y a quelque chose de salutaire. D'accepter la mort, le tombeau, le plâtre, la solitude, la souffrance, comme étant le moyen par lequel Dieu fait surgir, fait manifester sa vie. C'est ce que Christ a fait, hein? Il a dit, si le grain qui ne tombe en terre ne meurt, il va rester tout seul, mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Et donc, on est mort avec Christ, c'est déjà fait, mais quand on l'accepte, quand on voit que c'est une réalité spirituelle, puis qu'on l'accepte par la foi, puis qu'on dit, Dieu, je ne vais pas essayer d'amener la vie moi-même. Je m'attends à toi, puis toi, tu vas amener la vie de cette mort que je suis en train de vivre. Dieu va le faire. Dieu est vivant, puis Dieu amène de la vie à ce qui est mort. Dieu donne la vie aux morts. Puis Dieu aussi, dans les époques de notre vie, où est-ce que, voyons que là, on sent la mort, on sent la lourdeur. Si on s'attend à Dieu, si nos yeux sont fixés sur lui, puis qu'on accepte cette saison, Dieu va amener sa vie. Puis rappelez-vous ce que j'ai dit à la fin du message la semaine dernière. N'essayons pas d'insuffler de la vie dans ce que Dieu veut laisser mourir. Peut-être que c'est juste pour mourir justement, puis qu'on n'a pas besoin, puis que Dieu dit, OK, non, ça c'est pas pour ma gloire. Dieu veut l'émonder. C'est pas une branche qui va porter du fruit. Ben tant mieux, on voudrait pas amener de la vie à ce que Dieu veut faire mourir. Il veut faire pousser quelque chose d'autre. Laissons Dieu être Dieu. On a accepté simplement la mort de ce que Dieu veut faire mourir, puis lui, quand il veut faire vivre quelque chose, revivre quelque chose, craignez pas, il va le faire. Ça va être beau, ça va être glorieux. Puis la gloire, elle va aller à qui? Elle va aller à Dieu! Parce que c'est lui qui va l'avoir fait, ça va être évident. Et il y a une ironie là-dedans, ou si vous voulez, un paradoxe. Parlez-vous de ça avec ma chère épouse. La vie chrétienne, il y a tellement de paradoxes, là. On ne peut revivre sans subir la mort, c'est un des cantiques aussi qu'on chante. Mais il y a une ironie dans la vie chrétienne. Parlons de mes relations avec les autres. Si je veux aider les autres, on a parlé un peu tantôt, là. Je veux aider les autres à s'en sortir. Je veux aider les autres à apprécier la vie. Je les aime. Je veux que des gens soient sauvés qui ne sont pas encore sauvés. Je veux que des gens reviennent au Seigneur. Puis, c'est vraiment, j'ai plein de bonnes intentions, comme Moïse, hein? Avec l'Égyptien, il pensait qu'il allait reconnaître que Dieu le suscitait comme libérateur, mais c'était sa chair. Il fallait que Dieu l'envoie réfléchir pendant 40 ans. Ça, c'est longtemps dans ta chambre, hein? 40 ans dans ta chambre! Mais c'était salutaire. Je peux vouloir aider les autres avec plein de bonnes intentions, mais si la source est ma chair, si c'est indépendant de la vie de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne va pas produire de fruits. C'est ironique, pareil, hein? Je vais aider quelqu'un que j'aime donc, puis finalement, non seulement je ne l'aide pas, mais je vais y nuire. Mettez ça dans votre tiroir à réflexion. Vous l'ouvrirez pendant la semaine. Et ce piège, écoutez bien, est spécialement grand et important lorsque nous sommes en position d'autorité. Je parle ici aux parents. Je parle des fois dans vos relations de travail. Je parle à des gens dans les différentes responsabilités qu'on a. Il y a une tentation spéciale quand on est en autorité de faire pour Dieu ou donner un petit coup de main à Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'on a la capacité de le faire, parce qu'on a une autorité qui nous vient de Dieu, là. Mais on peut essayer de prendre la place de Dieu. On veut aider l'autre pour aider Dieu. Puis comprenez, là, Dieu veut nous utiliser, mais Dieu n'a pas besoin d'aide. Tu sais, c'est comme avec un enfant, là, qu'on fait la cuisine. Si on fait la cuisine, bon, toi, t'es plus un enfant, là, mais mettons qu'on prend Charles et Caleb pour faire des muffins. Est-ce que ça va aller plus vite que si je prends, mettons, Mathias et Nathanaël? Je pense que ça va être plus compliqué avec Charles et Caleb. Pourquoi? Ils sont plus petits, ta-ta-ta-ta-ta. OK? Non, c'est pas parce que j'ai besoin d'aide. C'est parce que je veux les bénir, puis avoir du temps avec eux autres, puis qu'eux autres y apprennent à faire des muffins. Ben, c'est pareil avec Dieu, là. Dieu n'a pas besoin de nous autres, là. Dieu n'a pas besoin de rien ni de personne. Dieu est absolument indépendant. Mais dans sa bonté, dans sa grâce, Il veut nous utiliser. Donc, comprenez bien, là, c'est pas une affaire de Dieu m'utilise ou non. Non, c'est est-ce que je dépends de Dieu pour qu'il m'utilise ou est-ce que je dépends de moi? Puis en disant, ah ben oui, Dieu, je veux t'aider. Ou, comprenez-vous, là, c'est pas assez subtil de dire Dieu, je veux t'aider. On est plus subtil que ça là, quand on rentre dans ces patterns-là. Mais savez-vous comment Dieu est bon? Dieu s'assure de nous enseigner que la chair ne sert à rien, que c'est une loi spirituelle inévitable. On ne peut pas porter de fruits pour Dieu si Dieu n'est pas la source. Et c'est ça l'idée de la source bienfaisante de la sagesse de Dieu. Quand on expérimente la grâce de Dieu, qu'on voit Dieu agir à travers nous autres, qu'on a vu que c'est pas en s'appuyant sur notre sagesse, qu'on s'est attendu à Dieu, puis qu'on a vu que dans tout ce qu'il y avait de mort, Dieu a insufflé la vie, on dit « Wow, je veux plus d'autre chose ». Et ça, c'est merveilleux. Et le monde est détruit parce qu'il rejette Dieu, mais le monde chrétien, il y a un grand mensonge répandu dans le monde chrétien, c'est-à-dire « Je veux servir, je veux aider la cause de Dieu, mais avec ma chair, avec le moi. » Mes amis, ça, c'est contre la croix de Christ. C'est le moi qui s'élève contre la suffisance de Dieu. Pour ce qui me concerne, dit Paul dans Galates 6, 14, « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix. » Cette mort, il acceptait la mort. Il était mort avec Christ et il l'acceptait. De me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. C'est pour ça que tout ce qui est indépendant de Dieu est voué à l'échec, mais tout ce qui dépend de Dieu, c'est voué au succès de Dieu. C'est un autre paradoxe. On est plus heureux d'avoir des échecs dans ce que Dieu désire que ça soit un échec que d'avoir du succès dans ce que Dieu aurait voulu que ça soit un échec. Avez-vous suivi ma phrase? Tu sais, dans ma vie, je peux avoir bien du succès dans les choses que moi je voudrais, mais si Dieu, c'est pas ce qu'il veut, là, j'aurais été aussi bien d'avoir un échec. Puis si j'ai du succès puis que tout va bien, là, mais que je suis loin de Dieu, puis j'aurais été aussi bien d'échouer là-dedans, puis de découvrir Dieu à la place. Mon frère, c'est vrai pour lui. Il aurait pu avoir une carrière, peut être de ce monde d'intellectuel, puis tout ça. Mais c'est une réussite de Dieu. Dieu n'a pas permis qu'il y ait un succès dans quelque chose parce qu'il y avait une autre voie. Meilleure. Et qui était nécessairement facile à accepter, puis tout ça. Puis... Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Est-ce que tu regrettes, frère, de ce que Dieu a fait dans ta vie?
Non, puis même des fois, il y a des journées où que je me dis, ah, si j'avais tout eu ce que je voulais, la belle carrière, puis toutes les pressions de conformer à la mentalité du monde-là, je me dis, des fois, je serais peut-être devenu quelque chose que je mépriserais aujourd'hui.
Absolument. Amen. Je ne voulais pas te mettre sur le spot, là, mais je trouvais que c'était une bonne illustration. Mais ben, gloire à Dieu, hein? Fait que c'est ça. Ça l'illustre, le fait. Tu sais, qu'est-ce qu'on recherche? Puis si Dieu veut faire mourir quelque chose, c'est bien que ça meure. Dieu a fait mourir des choses dans nos vies qu'on regarde après, on dit, hey, une chance que ça n'a pas prévu cette affaire-là. Puis pensez-y quand on était sauvés. Moi, je m'arrête sur une voie de mort. Content que Dieu ait tout fait échouer, mais. Mes projets, puis j'avais pu arriver à le connaître, lui, comme mon sauveur. Donc, je veux terminer avec cette simple pensée ce matin. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes attiré par la bonté de la sagesse de Dieu? Puis peut-être par contraste, non, peut-être que vous êtes attiré par la bonté de la sagesse de Dieu en voyant la laideur de la sagesse de ce monde. Vous dites, il n'y a rien de bon dans ce monde pour avoir la satisfaction, la vraie satisfaction, la plénitude. Le monde est trompeur. Le péché amène une jouissance, mais pour un temps. Ou peut-être que vous êtes attiré par... Voulez-vous, je vous parle de la sagesse de... Ben, c'est pas moi que vous en parlez, c'est Jacques, là. La sagesse d'en haut. Et premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Moi, j'ai goût de me tenir avec du monde de même. J'ai goût d'être du monde de même. J'ai le goût d'être quelqu'un de même. C'est attirant. C'est attirant la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut. Ou pour le dire autrement, est-ce qu'on est attiré par la beauté de Christ? Moi, une des choses que je trouve les plus merveilleuses, c'est de voir Christ dans ses enfants. C'est une des choses que j'ai découvert beaucoup dans les 3 dernières années. Moi, en me regardant dans le miroir, mais aussi les gens autour de moi, quand on... Tu sais, le moi, il peut avoir une certaine... C'est-à-dire, il y a des personnalités, tu vois, on peut s'entendre bien avec le monde, mais quand on voit Christ, lui, quand on l'entend, quand on le voit dans nos frères et sœurs, quelle joie! C'est « Wow! Dieu! C'est toi, ça! » Et je dirais, cette beauté, elle se voit par le fruit de sa vie, de son esprit en nous. Hein, avec l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est beau à voir. La beauté de marcher avec lui. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. La beauté de la bonté de l'homme avec un grand H. Vous savez que c'est Pilate qui a dit « Voici l'homme, ecce homo. Voici l'homme. » C'est comme l'homme avec un grand H. C'est Jésus-Christ, là. Vous savez quoi, ça nous dit, il y a un proverbe ici, il faut voir Christ dans toutes les Écritures. Écoutez ce que ça dit dans Proverbe 19-22. « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » C'est qui a la plus grande beauté, l'homme suprême, c'est Jésus-Christ. Il est d'une bonté ineffable. Il est la bonté incarnée. Écoutez ici, toujours dans le même proverbe, le verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Il y a un pattern de foi ici par rapport, je pouvais avoir des projets, mais quand je m'attends à Dieu, c'est ce que lui va faire dans ma vie. Mais ça, c'est accompli parfaitement en Jésus-Christ. Si je vis par la foi, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis là, si j'ai une vie ici-bas sur terre, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que tu acceptes le don de la grâce de Dieu? Est-ce que tu acceptes le don de la vie? D'abord, pour avoir la vie éternelle, si vous n'êtes pas sauvé, Dieu a tout accompli. Vous pouvez aujourd'hui passer de la mort à la vie. Vous pouvez être réconcilié avec Dieu par le sang précieux de Jésus qui a été versé. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Il a versé son sang pour que vous puissiez être racheté, sauvé, réconcilié avec Dieu. Et mes frères et sœurs en Jésus-Christ, vous pouvez jouir de la vraie vie en Jésus-Christ parce qu'il a tout accompli. Et vous n'avez pas de fardeau à vous mettre sur les épaules. Laissez Christ vivre en vous. Acceptez la mort, le fait que vous êtes mort, puis maintenant, vous êtes vivant en Dieu. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est la vraie liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Oh, que le Seigneur écrive sur nos cœurs ces vérités merveilleuses. On a la vraie liberté, la vraie vie. Et cette vie-là, cette liberté, c'est par la dépendance de Dieu. Notre indépendance n'amène qu'esclavage et que destruction. Que Dieu révèle à nos cœurs la beauté, la plénitude, la grâce de sa libération, de sa grâce, de sa vie, et qu'il puisse se glorifier au milieu de son peuple. Seigneur, merci pour ce temps ce matin. Toi qui nous as révélé la vraie sagesse, la vraie vie en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Ecclésiaste envoyait les ombres, envoyait les choses de loin. Mais merci, Seigneur, que c'est ta parole et qu'on voit dans ce qu'on a vu aujourd'hui dans Ecclésiaste, Christ, notre sagesse. Et qu'on voit que c'est une bonne sagesse. Ce n'est que ce qui est bon pour nous, Seigneur. Donc, on ne veut pas s'appuyer sur notre sagesse, on s'appuie sur toi, on veut vivre de façon dépendante de toi. Enseigne-nous-le, Seigneur. Enseigne-nous la beauté de dépendre de toi, de ta vie. Et Seigneur, je te prie, s'il y en a ici qui vivent encore sans toi, indépendamment de la vie qui est en Jésus-Christ, qui ne te connaissent pas, oh, que tu puisses, Seigneur, te révéler à eux, que tu puisses les amener à voir que c'est tellement simple. Ils n'ont qu'à accepter le sacrifice de Jésus en leur faveur, qui ont accepté que tu es mort pour eux afin qu'ils puissent vivre. Seigneur, tu ne veux pas que les gens essayent de vivre de leur mieux. Tu es mort à leur place pour qu'ils puissent avoir ta vie. Seigneur, ouvre les yeux, ouvre nos cœurs. On veut répondre, Seigneur, à ce que tu nous as dit ce matin. On s'attend à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.